à la chronique des bienvenue à la chronique des apatrides anonymes, de retour après une absence prolongée, après quelques péripéties dont la dernière fois le geyser du réservoir McTavish qui a considérablement ralenti ma progression vers les studios de CKUT. Je prends pas de chance, j'ai préenregistré cette chronique, donc aujourd'hui on vous parle de un impact plutôt imprévisible ou peut-être qui a été calculé par le gouvernement conservateur sur l'entrée en vigueur de la loi C-31. Un impact, donc, que je disais, qui pourrait avoir une conséquence assez fâcheuse sur le système carcéral canadien. Je vous donne plus de détails plus tard. Je reviens sur une importante victoire juridique par rapport au certificat de sécurité de Mohamed Majoub. Premièrement, on va faire un petit détour par la France où, soi-disant, paraît-il, le gouvernement socialiste aurait supprimé le délit de solidarité. Délit de solidarité, ça peut sonner un peu étrange que la solidarité soit criminalisée. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas un terme juridique officiel, c'est un terme qui a été plus ou moins créé par différentes associations de défense de droits des personnes sans papier pour désigner l'ensemble des éléments de la loi sur l'immigration française qui concerne l'aide aux personnes sans papier. Ce sont des éléments de loi qui s'appliquaient à toute personne qui, je cite, qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation, le séjour irrégulier d'un étranger en France. Donc, c'est une loi qui visait principalement les filières de passeurs, mais qui, dans la réalité, dans son application, concernait et faisait chier à peu près tout le monde, que ce soit les sans-papiers eux-mêmes, des citoyens, des bénévoles, des associations, des militants. Ça pouvait prévoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, ce qui n'est pas rien, 30 000 euros d'amende. Donc, à partir du 1er janvier 2013, suite à l'adoption d'un texte de loi de l'infâme ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, on se targue au Parti socialiste français d'avoir supprimé le délit de solidarité. Qu'est-ce qui a amené? Bien, regardez juste pour vous donner un exemple assez extrême, il y a une dame qui, en vertu de ces éléments de loi-là, avait été appréhendée et mise en garde à vue après avoir mis à la disposition de personnes en situation régulière une prise électrique pour recharger leur portable. Bon, c'est un exemple extrême. En général, ça pouvait s'agir plutôt d'hébergement, de soutien logistique, donner de la nourriture, de l'assistance juridique à des personnes sans papier. C'était criminalisé et la peine était modulée selon la gravité de la solidarité en tant que telle. Un exemple, si vous voulez voir ce que ça peut donner dans la réalité, un excellent film de fiction sorti en 2009, un film français qui s'appelle Welcome. Ça vous donne un peu une bonne idée de comment ça pouvait se concrétiser dans la vie de tous les jours pour quelqu'un qui apportait son aide à une personne sans papier. C'est un excellent film. Donc, le texte de loi, finalement, en tout cas, on repassera pour la suppression du délit de solidarité. On a plus ou moins nuancé, on a fait une distinction entre séjour irrégulier et entrée régulière, mais il y a des peines prévues dans tous les cas. Il y a de l'expulsion, évidemment, qui est prévue, l'interdiction de séjour par la suite, il y a des amendes. On permet maintenant le droit à l'assistance d'un avocat pour une personne sans papier. Ce qui n'était pas le cas avant, mais étant donné que ce sont souvent des personnes qui n'ont plus un rond, qui ne connaissent pas leurs droits, puis dont on ne pense pas que le gouvernement va les diriger vers les ressources appropriées, donc ça ne change pas grand-chose à mon avis. On peut toujours retenir les gens, on peut toujours les garder à vue si on veut, sauf que maintenant il y a une durée limite, donc normalement ça ne peut pas excéder 16 heures pour les sans-papiers, alors qu'avant c'était plus ou moins indéfini. Pour ce qui est du port des menottes, d'entraves physiques diverses, on remet ça dans le jugement de la police, à savoir si on considère la personne dangereuse. Donc la police jugera et à ce moment-là, elle peut passer les menottes à la personne appréhendée. On dit que le délit de solidarité est supprimé, mais c'est pas vrai parce que le délit d'aide au séjour irrégulier est maintenu. Sauf, on précise maintenant s'il s'agit d'actions humanitaires et désintéressées, mais c'est pas plus précis que ça. L'aide au séjour irrégulier n'est plus un délit. Là, je vais vous lire une phrase. J'ouvre les guillemets. Lorsque l'acte, donc c'est plus un délit, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte. Donc, si c'est vraiment offert de manière désintéressée, ce qui reste toujours à prouver devant un commissaire ou devant un juge, ce n'est plus pénalisé. puis le terme contrepartie, qu'est-ce que ça veut dire? De l'argent, du travail au noir, des services quelconques, on ne sait pas, ce n'est pas précisé, c'est très vague et c'est ouvert à interprétation. Donc, le gouvernement socialiste a voulu répondre à une promesse, a voulu un peu faire plaisir aux associations, donc alléger le texte, reformuler certains points, ajouter des précisions, mais l'aide au séjour de sans-papiers demeure criminelle en France sous de très nombreuses conditions qui sont mal définies. Et le plus important, c'est que les principes demeurent. Je vous cite un juriste français, c'est très bien tourné à la française, il a qualifié ce texte de loi-là de réformette cosmétique pour faire plaisir aux associations, un texte alambiqué pour noyer le poisson dans la formulation. Au Canada, est-ce qu'il y a, comme en France, des éléments de loi qui peuvent s'apparenter au délit de solidarité? Donc, officiellement, il n'y en avait pas. Il n'y a pas non plus de terme officiel enchâssé dans une loi pour regrouper l'ensemble des articles qui criminalisent l'aide aux sans-papiers. Mais on a une nouvelle loi, la C-31, la loi sur la section sur les passeurs, entre autres, qui, un peu comme en France, c'est plus ou moins flou à savoir quelles personnes on vise, quel type de groupe de personnes, d'associations, les individus, les citoyens, les sans-papiers. Ce n'est pas clair, mais il y a maintenant des éléments de la loi qui criminalisent le passage des sans-papiers. Leur séjour, par contre, ça, c'est pas clair. Et il y a un flou sur... c'est pas explicitement écrit si on vise les passeurs, les groupes, les individus. Puis, de toute façon, il nous reste beaucoup à analyser avec ces lois-là. Il y en a eu plusieurs réformes aux lois de l'immigration. Dans les bills omnibus, il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui viennent réformer, qui viennent amender les lois sur l'immigration. Et on n'a pas encore tout analysé, même les avocats, les juristes, les personnes plus connaissantes de la loi, ils ont encore beaucoup de travail à faire d'analyse, à savoir quelle sera la portée exacte, complète de toutes ces réformes qui ont été adoptées au Canada depuis un an et demi à peu près. Donc, l'application de la loi C-31, la loi est en vigueur depuis le 10 décembre. Je vais vous parler d'une conséquence de cette loi-là sur le système carcéral, comme je disais en introduction. Par contre, il y a un article de la loi C-31 qui a été invalidé le 14 janvier dernier par la Cour de Colombie-Britannique. L'article 117, il vise à criminaliser, on s'en doute, ou en tout cas à appréhender quiconque organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes non munies de documents, donc passeport, visa ou autre, qui sont requis par la présente loi, ou toute personne qui incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. Donc, ça ressemble pas mal au délit de solidarité. Toute personne qui incite, qui aide ou qui encourage une personne irrégulière à entrer au Canada. La Cour de Colombie-Britannique a invalidé cet article de loi-là. Et on apprend toutefois, c'était une semaine après, que la Couronne entend faire appel de ce jugement. Donc, bref, C-31 demeure dans sa quasi-intégralité jusqu'à nouvel ordre. Cet article-là, s'il est invalidé par une cour, mais si l'invalidation s'en va en appel, je crois qu'il est suspendu. Certains se posent la question, la loi C-31, dans son ensemble, avec plusieurs de ses clauses, de ses mesures, est-ce qu'elle ne serait pas qu'un outil qui servirait à la privatisation du système carcéral canadien? Donc, ça a l'air un peu gros. Mais je m'explique. On sait que les conservateurs sont assez paranoïaques, sont très, très portés sur la répression, sur la criminalisation, la détention, les expulsions, tout ça. On sait que Kenny a déjà affirmé vouloir travailler davantage en PPP, et en particulier, oui, au niveau du système carcéral et des centres de détention pour les immigrants. Il y a un article du Guardian qui est sorti récemment qui s'intitule, je vais le répéter parce que mon anglais, je ne sais pas s'il est bon, donc « Private prison firms look to cash in on Canada asylum crackdown ». Je répète, « Private prison firms look to cash in on Canada asylum crackdown ». Un article du Guardian qui est disponible sur Internet, qu'on peut lire au complet gratuitement. On y apprend les choses suivantes, donc non seulement les déclarations récentes de Kenny sur sa volonté de travailler en PPP, on apprend que plusieurs entreprises de l'industrie carcérale font du lobbying actif à Ottawa depuis quelque temps. On y apprend que Kenny, lors de voyages récemment, a visité des centres de détention privés aux États-Unis et en Australie. On sait que le gouvernement fédéral a commandé une étude à la firme Deloitte et Touche sur les prisons privées à l'étranger. On y apprend, c'est pas fini, que Victaze a rencontré des représentants de deux entreprises qui s'appellent Geo Group et Management and Training Corporation, qui sont les deux acteurs les plus importants dans le domaine des prisons privées aux États-Unis. Donc, comme je disais, on connaît la propension des conservateurs à toutes sortes de privatisations, on connaît leur proximité avec les secteurs de la sécurité, avec le complexe militaro-industriel. Mais comme on sait, comment privatiser le système carcéral canadien quand on se rend compte que toutes les données de la criminalité au Canada depuis des décennies sont en baisse? On a prévu des peines plus lourdes pour les jeunes. On a étendu, si on veut, la pénalisation de nombreux délits, de nombreux crimes. On a augmenté des peines. On va plus vers l'aide aux victimes ces temps-ci, mais on criminalise davantage. Et malgré ça, même les données très récentes nous indiquent que ça ne suffit pas à exercer assez de pression sur le système carcéral canadien pour mettre plus de monde en prison. La criminalité baisse et c'est constant, ça se vérifie dans les données très récentes. Donc, quelle est la planche de salut du gouvernement conservateur pour permettre la privatisation du système carcéral canadien? Il y a une clause dans la loi C-31 qui est assez explicite et qui est très explicite. Ça le dit, c'est un an minimum et automatique de détention pour toute personne qui arrive de manière dite irrégulière en sol canadien, adulte comme enfant. Est-ce que ce sera suffisant pour mettre assez de monde en prison? Pour exercer assez de pression pour le système carcéral actuel, pour dire, ben voyez, chers Canadiens, chères Canadiennes, nous devons trouver des nouvelles solutions pour augmenter l'offre d'hébergement carcéral, si on veut, et la seule solution qu'on a trouvée, c'est la privatisation. Ça a l'air paranoïaque, mais c'est fort possible. En tout cas, ça resterait à étudier. Puis si même le Guardian, qui est quand même relativement crédible et pas très radical, prétend ça dans un article, il y a quand même lieu de se poser la question. Les entreprises dont je parlais, il y en a d'autres, mais Geo Group, Management and Training Corp, on sait qu'ils veulent faire leur entrée sur le marché canadien bientôt. Et ils opèrent toutes sortes de prisons, de centres de détention, dont beaucoup de centres de détention qui sont à la frontière du Mexique et des États-Unis. Question d'être très encourageant, d'être très positif. Geo Group, entre autres, est constamment accusé aux États-Unis de traitements inhumains, de non-respect des droits constitutionnels et même d'abus sexuels. En tout cas, la liste pourrait se poursuivre, c'est assez fréquent. Ça promet, donc, c'est une tendance lourde, pas seulement aux États-Unis, mais dans de nombreux pays. Particulièrement dans les pays anglo-saxons. Je vais terminer quand même avec une bonne nouvelle. C'est un jugement de la Cour fédérale qui a été rendu le 7 janvier dernier. La plupart des conditions du certificat de sécurité de Mohamed Majoub ont été levées. Donc, c'est une excellente nouvelle pour lui, pour ses proches en premier et pour la justice au Canada. Donc, je ne ferai pas le résumé de la vie de Mohamed Majoub. On sait qu'il a été arrêté à Toronto en 2000. Avec une preuve secrète, il va sans dire. Donc, les conditions qui ont été levées, je vais les nommer parce que dans le quotidien de la personne, ça a une énorme conséquence sur sa qualité de vie. Donc, il n'a plus de bracelet GPS à porter. Il peut maintenant utiliser Internet et un cellulaire. Le dispositif de surveillance électronique de sa maison sera retiré. Ça, je ne sais pas si c'est fait en date d'aujourd'hui. Les appels et les courriers qu'il reçoit ne seront plus surveillés, en principe. Mohamed Majoub peut maintenant prendre le métro librement. Il peut déménager sans l'accord du gouvernement. Donc, quand même, c'est des conditions qui lui étaient imposées, qui étaient très dures, elles sont toutes levées. La juge, dont je souligne le nom très approprié, la juge Justice Blanchard, elle insiste dans son jugement sur le fait que la preuve est insuffisante et tronquée. Qu'elle n'est pas assez substantielle pour démontrer que Majoub est une menace. Elle insiste sur le fait que le gouvernement parle généralement d'une menace possible de risque à la sécurité éventuelle. Elle dit avoir été très sensible aux critiques sur la méthodologie du SCRS pour constituer sa preuve, preuve qui, on le sait, a continuellement changé, a été basée sur des documents colligés, censurés, parfois détruits, et que les sources ne sont pas nécessairement dignes de confiance. Certains témoignages aussi qui sont venus alimenter la preuve ont été obtenus sous la torture. Elle souligne aussi le respect intégral par Mohamed Majoub de ses conditions. Donc, il doit être très content. On est très content pour lui. On souhaite que ça fasse jurisprudence pour tous les certificats de sécurité, passé, présent et à venir. C'est ce qui termine la chronique des apatrides. On devrait être de retour sous peu. On va souhaiter une bonne soirée à tout le monde.